Radio Kapi. Oh,
Kapi. Jean-Désiré Kanyama à la présentation.
Le gouvernement de la RDC s'engage à payer la totalité des pertes et manques à gagner aux pétroliers à travers un arrêté interministériel signé samedi dernier à Kinshasa. C'est notamment pour faire face à la flambée des prix du pétrole et à la variation des paramètres qui entrent en compte dans la fixation des prix. Les 9e JO de la francophonie de Kinshasa appartiennent désormais au passé. Pour certains spécialistes, ils resteront parmi les grands événements qui ont marqué l'histoire de la RDC. Le pays a décroché le plus nombre de médailles, soit 34 au total, dont 5 en or. L'invité de ce journal est M. Kotondi Amadou Tchek, membre de la délégation du Niger aux 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Ces Jeux, vous le savez, ont connu la participation des délégations des 37 États et gouvernements. Interview à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Et bonjour, bienvenue et bonne écoute. À présent, les détails. Il n'y aura pas de file devant les stations-service ce lundi dans la capitale. Pour éviter au pays une pénurie de carburant, le gouvernement s'engage à payer la totalité des pertes et manques à gagner aux pétroliers, aux sociétés pétrolières. Décision prise au cours d'une réunion tenue samedi dernier à Kinshasa. Un arrêté interministériel fixant les mécanismes de mobilisation des fonds destinés au paiement des pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières a été signé par le vice-premier ministre en charge de l'économie, le ministre des ministres des Finances et le ministre des Hydrocarbures. Il s'agit donc d'une concrétisation du montage financier décidé fin 2022 entre le gouvernement, les sociétés pétrolières et les banques commerciales, aussi essentiellement pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe.
Les sociétés pétrolières étaient déjà en difficulté, si pas presque en faillite. Et donc d'ici lundi, nous allions voir le problème des fils devant les stations de carburant. Tout ceci vient d'être désamorcé avec les solutions que nous venons d'annoncer au pétrolier. Donc lundi, les Congolais peuvent être tranquilles, il y aura du carburant. Non seulement ça, une bonne nouvelle aussi, la profession pétrolière est la première à emboîter le pas au gouvernement dans le cadre de l'embellie du fonds congolais. Le gouvernement a décidé qu'il y ait des guichets spéciaux et le mécanisme sera étudié par la gouverneure de la Banque centrale, le ministre des Finances, pour qu'en cas de besoin, et les besoins il y en aura, les devises, au lieu d'aller spéculer sur le marché parallèle, ils auront des devises au taux de la Banque centrale directement. Tout ça, c'est extraordinaire. Nous voulons donc remercier le président de la République qui a effectivement compris le plaidoyer que nous avons fait, à la fois pour les opérateurs économiques, mais aussi pour la population congolaise, puisque le pétrole, c'est un produit stratégique qui touche à toute l'activité économique. Et donc, en le faisant, on le fait aussi pour la population congolaise.
Du côté des pétroliers, on se réjouit de la décision du gouvernement. Charles Nicobanza, directeur général d'Engen RDC, a pris part à la signature de l'arrêté interministériel évoqué ci-dessus. Il parle au nom des sociétés pétrolières.
Le secteur de la distribution des produits pétroliers a connu une situation très difficile. Nous avons soutenu l'État pendant la période dure en 2022 quand débutait la guerre Ukraine-Russie. Et comme vous l'avez vu, il y a eu des remous partout dans le monde, sauf en RDC. Aujourd'hui, la dette de l'État était montée à un niveau très élevé, bloquant tout le système et les sociétés ne pouvaient plus avoir suffisamment de stock auprès des fournisseurs. Les trois ministres ont signé un arrêté devant nous, ce qui, sincèrement, nous donne une grande confiance, contrairement à la peur qu'on avait.
Je déclare clos les 9e Jeux de la francophonie.
Vous venez de le suivre, les 9e Jeux de la francophonie appartiennent désormais au passé. Mais au dire de certains spécialistes, ils resteront parmi les grands événements qui ont marqué l'histoire de la RDC. En réussissant haut la main son organisation, le pays a déjoué les pronostics. La RDC a fait mieux en décrochant le plus grand nombre de médailles jamais obtenues dans une compétition du genre, soit 34 au total, dont 5 en or. C'est hier dimanche, dans un stade des martyrs plein comme un œuf, que le président de la République a clôturé officiellement ses Jeux dans une ambiance festive. Pour Félix Tshisekedi, les 9e Jeux de la francophonie resteront un événement inoubliable. Raison de remercier vivement tous ceux qui ont concouru à sa matérialisation. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pelle Kipelamondo.
Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la Francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la Francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et au mien propre, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Et de manière générale, tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone, au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés et affrontés lors des compétitions saines, marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive.
S'exprimant au cours d'une conférence de presse hier dimanche à Kinshasa, Madame Zeina Mina, directrice des Jeux, a exprimé sa profonde reconnaissance envers les autorités de la RDC qui, selon elle, ont joué un rôle essentiel dans la réussite de cet événement extraordinaire. Par ailleurs, elle salue la mobilisation de la population kinoise. Ce qui m'a le plus frappé positivement tout au long des Jeux, c'est l'énorme soutien et l'enthousiasme du peuple de Kinshasa. Dès le premier jour, des milliers de personnes ont afflué vers les sites pour encourager les sportifs et les artistes, même lorsque la RDC ne participait pas à une compétition donnée, affirme-t-elle. Elle dresse le bilan des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa dans ses propos recueillis par Vanessa Kongolo.
Cette édition a rassemblé 37 États et gouvernements représentant les cultures riches et diversifiées du monde francophone. Avec près de 3535 participants, dont 1429 sportifs et 389 artistes, ces Jeux sont devenus une véritable célébration de l'unité, de l'amitié et de l'esprit sportif et culturel. Les disciplines sportives telles que l'athlétisme et le handisport, le basketball, le football, le tennis de table, le judo, le cyclisme sur route, la lutte et la lutte africaine ont rassemblé des athlètes de haut niveau, mettant en valeur leurs talents et leur dévouement.
Revenons à présent sur cette attaque du M23 hier dimanche au Nord Kivu dans la matinée contre le groupe armé Nyatura CMC dans le village Marangara, groupement de Tongo, chefferie de Buito en territoire de Rutshuru. Le bilan fait état de 11 civils tués, plusieurs blessés, des maisons incendiées et des biens détruits. Des sources locales affirment qu'après cette attaque, les rebelles du M23 et leur soutien s'en sont pris aux paisibles citoyens en commettant ces massacres. Cette situation provoque des réactions, notamment celle des mouvements citoyens La Vision pour la victoire du peuple. Il dit condamner cet énième massacre des civils par le M23. Détail avec vous, Jacques-Yves Molima.
Selon des sources jointes par Okapi Goma, l'attaque s'est passée entre 3h et 6h du matin ce dimanche. En représailles, les rebelles du M23 s'en prennent aux populations civiles. 9 personnes sont tuées dans les villages de Marangara et Runzenze. Il s'agit de 2 hommes, 2 femmes et 5 enfants. Les personnes tuées n'ont aucun lien avec les hostilités. Plus de 6 personnes autres sont blessées. Les mouvements citoyens, La Vision pour la victoire du peuple, dénoncent cette méthode récurrente du M23 de massacrer des civils dans cette partie de Rutshuru. Ces agissements du M23 se passent sous les yeux de la force de l'EAC déployée dans la région, s'indigne un des membres de cette organisation, Héritier Gachegou.
Toutes ces victimes des différents massacres connus à Tongo, à Masisi et à Rutshuru, à Buito comme à Bouisha, se font à côté de cette force mafieuse. Notre mouvement citoyen, La Vision pour la victoire du peuple, nous demandons une seule chose, c'est déployer des forces onisiennes de la MONUSCO à Tongo en raison de protéger les civils au nom de sauver l'humanité en péril, un génocide en cours.
Côté bilan, on a parlé d'abord de 9 morts. Nos sources précisent que parmi les blessés qui auraient été acheminés à l'hôpital par les militaires de l'EIAC déployés à Tongu, 2 autres ont succombé à leurs blessures, ce qui ramène le nombre des tués à 11. Une accalmie relative s'observe dans cette région, alors que la peur reste perceptible à la suite de ces tueries.
Au Kasaï oriental, des cas de kidnapping sont enregistrés dans la ville de Mbujimayi ces derniers jours.
Quelques ONG locales disent avoir recensé 5 cas la semaine dernière. Aucun quartier n'est épargné par cette pratique. Dans son discours de la cérémonie de clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale la semaine dernière, le vice-président de cette institution a même déploré cette pratique qui, selon lui, devient monnaie courante dans la ville de Mbujimayi. D'après les familles victimes, les kidnappeurs exigent des grosses sommes d'argent pour libérer leurs otages. De son côté, la bourgmestre de la commune de Bipemba renseigne que quelques présumés kidnappeurs sont déjà identifiés et recherchés dans son entité administrative. Irène Mbalayi a été jointe par Esther Ndalafina.
Il y a des cas comme ça, il y a un monsieur bien connu qui s'est fait vraiment kidnappeur. Il s'amène avec une moto. Et là, nous avons pris comme disposition la sécurité d'abord avec le chef de quartier et aussi les jeunes volontaristes du quartier. Ils sont là, ils font d'office la brigade nocturne qui nous aide à pallier, sans oublier notre police. Aujourd'hui là, il y a toujours des cas qui s'enregistrent, mais grâce à ces dispositifs-là, les gens ne parviennent toujours pas à réussir leur mission au niveau de la commune. C'est-à-dire les kidnappeurs, nous les avons déjà identifiés et la population est veillée à faire à ce qu'ils ne puissent pas réaliser leur mission. On a associé cette jeunesse afin d'abord de lutter contre tout ce qu'il y a toujours eu comme problème. Toutefois, nous demandons à l'actuel général de pouvoir renforcer vraiment les mesures de sécurité au niveau de la ville en général et plus particulièrement la commune de Bipemba. Sans oublier que Bipemba est trop vaste de toutes les communes, parce que c'est une situation précaire qui met en danger la population d'une manière générale.
Procéder à un audit citoyen du fichier électoral ainsi que les simples bases d'observation sont là les deux actions majeures proposées par la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. C'est pour des élections honnêtes et pacifiques qu'il faille mener en collaboration avec la CENI afin de restaurer la confiance de tous les acteurs dans le processus électoral et ainsi favoriser l'acceptation des résultats. Cette proposition est contenue dans un mémorandum signé par la CENCO et l'ECC, parvenu samedi dernier à Radio Okapi. Les explications avec vous, Paul Matendo.
Kotondi Amadou Cheikh, comment on se marie au Niger?
Parlons de l'audit citoyen du fichier électoral. La mission d'observation électorale CENCO-ECC estime qu'actuellement, le fichier électoral divise certains acteurs politiques et la CENI. Ainsi, en vue de décrisper cette crise autour du fichier électoral, la MOE CENCO-ECC entend mener un audit citoyen du dit fichier. De manière claire, il s'agit de mener cet audit avec l'appui de la CENI elle-même. La MOE et la CENI conviendront de la manière de communiquer avec les autres partie prenante sur les rapports de cet audit, de sorte que cela ne bloque la mise en œuvre du calendrier électoral. Au sujet du Simple Based Observation, la MOE explique que c'est une méthodologie d'observation électorale utilisée par les organisations de la société civile pour vérifier de manière indépendante les résultats officiels des élections. La primeur des résultats de ce travail sera réservée à la CENI. Pour y arriver, la MOE aura besoin de l'accompagnement de la CENI. Dans la réalisation de ce travail, un dispositif de transparence sera mis en place pour permettre aux partenaires et à la CENI de s'assurer de la précision et de l'honnêteté des résultats qui en résulteront. Cette collaboration avec la CENI dans la réalisation du travail de la MOE CENCO-ECC peut être coulée dans un protocole d'accord, conclut cette mission d'observation électorale.
En bref, la CENI demande au chef des regroupements politiques de déposer en toute urgence au ministère de l'Intérieur la liste des partis politiques de leur regroupement constitutif. La centrale électorale ajoute qu'une copie de ces listes accompagnée de l'accusé de réception doit être déposée à son secrétariat exécutif ici à Kinshasa. Ce, dans le souci de clarifier l'appartenance des partis au regroupement politique et accélérer le traitement des dossiers de candidature à la députation nationale.
Actualité internationale.
Malgré la fin de l'ultimatum fixé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la junte nigérienne n'a pas montré la volonté de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Hier dimanche, dans la soirée, le Conseil national pour la sauvegarde de la partie a publié plusieurs communiqués qui démontrent une pression qui s'accentue autour de la junte, qui a fermé l'espace aérien et redouté une agression imminente. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, en prison depuis le 31 juillet, a été transféré hier dimanche au service des urgences d'un hôpital de Dakar. En grève de faim depuis son incarcération, l'opposant sénégalais est physiquement mal à point. selon son parti politique, le PASTEF, qui a rendu l'information publique.
L'invité.
Les 9e Jeux de la francophonie qui se sont clôturés hier dimanche à Kinshasa ont connu la participation des délégations de 37 États et gouvernements. Parmi elles, la délégation du Niger. Invité de ce journal, Kotondi Amadou Tchèque, membre de cette délégation, nous parle de la culture de son pays dans cet entretien qu'il a accordé à Rosalie Zawadi.
Kotondi Amadou Tchèque, comment on se marie au Niger?
Le mariage traditionnel, j'ai un garçon, il a l'âge de se marier. J'inspecte dans le village, je vois mon ami escondé, il est posé, son caractère, le caractère de sa femme. Et moi je vais, je dis à escondé, je veux que mon fils épouse ta fille. Les deux ne se connaissent pas. S'il a son accord, on fait les accords entre nous deux. Et maintenant, je viens dire à mon fils, je t'ai trouvé une femme.
Oui.
Et c'est avec les valeurs de sa famille que je prends. Il y a chez nous ce qu'on appelle qui est dans Windy, mettre le pied dans la maison. Donc il y a une certaine somme, un petit cadeau qu'on apporte à la famille de la jeune fille.
Oui.
Et après, on discute sur le montant de la dot qu'on apporte. Une fois que la dot est apportée, nous, on lui dit, on veut que le mariage soit célébré tel jour.
Oui, la dot, de quoi est-elle constituée? Oui,
c'est un peu insignifiant. Souvent, c'est juste de la cola, d'autres petits cadeaux et une petite somme d'argent.
Seulement?
Oui, mais quand c'est un peu le level, les familles princières, il faut montrer que mon fils va épouser, donc je peux donner des animaux et autres en plus de l'argent.
Mais dans la communauté, on peut amener des colas, juste un petit cadeau et on a la fille.
Un petit cadeau parce que c'est un truc insignifiant. Et ça, à partir de 1974, avec notre président Kountché, qui a vu que les familles, tu as une fille, elle devient comme un objet commercial. Et tu t'es dit que si le gars ne donne pas 1000 dollars, tu ne vas pas prendre ta fille. Et le président Kountché a décrété que la dot au Niger, le maximum c'est 50 000 francs CFA pour une jeune fille.
En dollars, ça peut faire combien?
Moins de 100 dollars.
Aujourd'hui, c'est toujours ça?
Non, aujourd'hui, les gens arrivent à donner jusqu'à 500 dollars, 1000 dollars, mais sur les papiers juridiques, c'est toujours les 100 dollars qu'on met. Parce qu'en cas de divorce, si tu dis que tu ne veux pas de moi, ta famille rembourse ma dot.
Oui.
Mais si j'ai dit je ne veux pas, vous gardez la dot. Ce qui veut dire que quand j'amène 2000 dollars chez toi, sur les papiers administratifs, la dot c'est les 100 dollars. En cas de divorce, ta famille ne me rembourse que 100 dollars.
Mais est-ce qu'il y a ceux qui dotent réellement 100 dollars chez vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, je peux dire moins que ça.
Moins que 100 dollars?
Oui.
Parlons de l'éducation des jeunes. Quelles sont les valeurs que vous transmettez à la jeunesse à travers votre éducation?
Dans l'éducation traditionnelle, on ne connaît pas le détournement, on ne connaît pas la corruption, on ne connaît pas le mensonge, le vol. On ne doit pas faire du mal. On ne répond pas au mal par le mal. C'est toujours par le bien.
Comment se règlent les conflits chez vous?
En fait, vous m'étendez la perche où on s'est dit avec l'Afrique centrale, on trouve que c'est bizarre. Nous, en Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie entre les tribus,
oui,
entre les ethnies. C'est ce que nous utilisons. Et surtout que aussi au Niger, il y a eu beaucoup de mariages mixtes. Mon épouse n'est pas de la même ethnie que moi. Donc déjà, mes enfants sont métissés. Elle est les Peuls, moi je suis Zerma. Ça veut dire que demain, quand les Peuls et les Zerma vont se frapper, mes enfants vont les regarder seulement. Ils vont aller dans quelle guerre?
Et maintenant, qu'est-ce que vous recommandez à la région de l'Afrique centrale?
Chercher des valeurs. Nous sommes en Afrique, ça existe. Ancestralement, il va y avoir une alliance entre deux tribus quelque part. Je prends Goma.
Oui.
Les premiers habitants de Goma, les autochtones, qui ils sont? Aujourd'hui, il y a combien de tribus à Goma? Est-ce que quand ils sont venus, ils se sont fait la guerre? Parce que une fois que tu restes là-bas, ça veut dire que le premier habitant t'a reçu. Et quand il te reçoit, il y a eu des alliances. Les Belges ont trouvé des choses ici. Ils ont trouvé des royaumes. Ils ont trouvé des chefs. Ces chefs-là, ils sont alliés à qui et qui? Comment eux, ils arrivaient à gérer les conflits? Parce qu'on sait que depuis le temps des temps, les conflits sur les terrains de chasse, sur un terrain fertile d'agriculture, Moi, je veux, lui, il veut, on se frappe. Mais il y a toujours un moyen de nous réconcilier jusqu'à on crée un village et nous deux, on essaie de diriger. Et si tu prends l'exemple de la ville de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Bobo Dioulasso, c'est des Bobos et de Djoula, deux ethnies, en traduction, chez les Bobos et les Djoula. Donc tu vois comment ils sont rentrés en symbiose jusqu'à le nom de la ville. Donc quand nous retournons aux sources, nous allons trouver beaucoup d'alliances entre les Turcs et c'est revaloriser ces alliances. Et beaucoup de choses vont changer.
Kotondi Amadou Tchèk, membre de la délégation nigérienne au 9e jour de la francophonie de Kinshasa, était notre invité dans un entretien exclusif avec Rosalie Zawadi. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipela Mondo sous la coordination de Jacques-Yves Molima, Alain Goya sur la technique. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi.